c'est provisionnel aujourd'hui. Il y a une date de création, c'est la préparation de la Seconde Guerre mondiale, où dans la précipitation, le gouvernement de l'époque crée des centres de formation accélérée pour les industries de guerre. En septembre 39, c'est-à-dire après la déclaration de guerre, parce que sur le plan de l'efficacité, évidemment, on pose question. Et puis finalement, ces établissements sont créés, effectivement, la plupart du temps annexés aux écoles techniques qui, elles, existaient avant, qui sont l'équivalent des lycées techniques. Et donc le gouvernement de Vichy les développe, et on se retrouve, pour des raisons multiples, complexes à expliquer, mais enfin, en gros, ça sont quand même des centres de formation professionnelle, et donc on se retrouve avec 800 établissements et 45 000 élèves en 1945, qu'on va transformer dans ce qu'on appelle les centres d'apprentissage, dont Jérôme a beaucoup parlé, et il y aura 300 000 élèves en 59, ça devient les CET en 59, Collège d'enseignement technique, on crée le BEP en 66, en 76, on crée le lycée d'enseignement professionnel, on a déjà 700 000 élèves, et finalement, on arrive à la création, à ce que ça devient aujourd'hui, création du Bac Pro en 85 et Bac Pro en 3 ans en 2008. Simplement pour rappeler, et ça va être ça mon propos, et ça va être un peu le miroir de ce qu'a proposé Jérôme, pour rappeler que c'est bien progressivement un système qui, enfin ça c'est ce que Jérôme a montré, qui rentre dans la forme scolaire de plus en plus fortement, c'est-à-dire qui démarre très à côté, hein, les centres de formation d'apprentissage en 44 sont des établissements qui viennent de se créer, très très pionniers, dans lesquels les formations sont encore très improvisées, on n'a pas encore créé les écoles normales, enfin c'est quelque chose qui, souvent les élèves construisent eux-mêmes les ateliers, enfin bon, on est vraiment dans quelque chose qui n'a pas du tout encore la forme scolaire, même si on y prépare quand même majoritairement le CAP en 3 ans. Alors je rappelle pourquoi on fait un des CAP en 3 ans, hein, c'est parce que donc, le CAP est créé en 1911, recréé en 1919 par la loi Astier, et ça devient le diplôme de l'élite ouvrière, hein, pour le dire vite. Préparé soit par apprentissage, soit dans certaines écoles, et à partir de la création des centres d'apprentissage, préparé dans les centres d'apprentissage. Et le gouvernement de Vichy en 1942 promulgue une loi qui reprend les conventions collectives de 1936. Il y a là une continuité assez rigolote sur le plan historique, mais qui est réelle. Et donc, qui dit qu'en gros, on va définir un ouvrier qualifié à partir du fait qu'il a une formation qui est à peu près celle qui conduit au CAP et qui dure 3 ans. Pourquoi 3 ans? Fin des études primaires, 14 ans. Service militaire, 17 ans. Hein, c'est ça le critère temporel principal. C'est la période de l'âge où on ne sait pas trop quoi faire des garçons et des filles qui rentrent pas encore définitivement sur le marché du travail. Ça n'est pas un critère professionnel, on en parlait à midi rapidement. C'est pas en fonction des différentes caractéristiques des métiers qu'on définit la durée. Parce que sinon, il y a des métiers où il faut 4 ou 5 ans pour arriver à être un bon professionnel, et des métiers où en 1 an et demi ou 2 ans, on peut... c'est déjà une espèce de temporalité à la fois scolaire et sociétale qui impose ces 3 ans. Et donc, ça devient la norme du centre d'apprentissage de préparer les CAP en 3 ans. Puis après, vous voyez l'évolution progressive qui correspond à une espèce de correspondance de plus en plus forte avec les normes scolaires. Donc de ce point de vue-là, c'est clair qu'effectivement, les lycées professionnels sont une scolarisation de la formation professionnelle. J'ai essayé de prendre ça à contre-pied, c'est-à-dire de dire certes, effectivement, c'est des normes scolaires qui s'imposent, des diplômes, des programmes, enfin on appelle ça des référentiels, mais c'est la même idée. Il y a des inspecteurs, des profs recrutés par concours, une temporalité qui suit les vacances, etc., etc. Donc il y a effectivement une forme scolaire. Il n'empêche que, fondamentalement, ces programmes, ces cours et le lycée professionnel, il est d'abord construit par rapport à des besoins de formation qui sont définis en fonction de ce que annonce le marché du travail. Et d'ailleurs, les formations, on va le voir, évoluent. Donc j'ai décidé de le prendre dans ce sens-là, pour montrer que cette forme scolaire, certes, elle existe, mais elle est constamment en tension avec les exigences du marché du travail, avec les exigences de ce qu'impose le fait d'avoir des formations professionnelles, dont l'idée, je le rappelle, est d'être à double finalité. Un bachelier professionnel ou titulaire d'un CAP, il doit pouvoir travailler le lendemain son examen dans une entreprise. Il doit pouvoir aussi continuer des études, mais il est censé être un professionnel efficace à la sortie avec son diplôme. Donc il y a cette double finalité. Donc il y a une pression, si vous voulez, des exigences professionnelles sur le lycée professionnel. Et c'est en inversant ça que je voulais que je voulais conduire. C'est un peu là-dessus que je conduis cette intervention aujourd'hui. J'avoue que c'est assez... j'essaye, hein, je ne sais pas trop ce que ça va donner, vous essuyez les plâtres. Je rappelle ça, là, c'est juste pour que tout le monde ait bien conscience de la place qu'occupe l'enseignement professionnel aujourd'hui, hein, puisqu'il a dépassé en termes de nombre de bacheliers l'enseignement technologique, et on voit très bien que c'est l'enseignement professionnel qui a assuré la montée à 80%. Autant c'était l'enseignement technologique et l'enseignement général qui avaient assuré la montée jusqu'à 65% de bacheliers, mais depuis, on voit qu'ils ont stagné, et à partir de la réforme de 89, ce qui est logique, la réforme de 89, le bac pro passe de 4 à 3 ans, donc tous les élèves de bac pro vont au bac. Alors qu'avant, il y en avait la moitié qui s'arrêtait au BEP. Donc forcément, mécaniquement, si vous voulez, vous avez une... Et donc on a aujourd'hui un rôle quand même important, puisque 22% des bacheliers sont des bacheliers professionnels. C'était juste un rappel. Alors maintenant, je vais aller sur le cœur de mon intervention, qui est de bien voir comment la dimension, justement, professionnalisante, c'est-à-dire les exigences du marché du travail, pour aller vite, enfin, de chaque profession, agit sur le fonctionnement des lycées professionnels. Pour ça, je démarre par la présentation, ça va être assez descriptif, ce que je vais faire. Je démarre par la présentation d'une instance que peu de gens connaissent, à part les gens qui sont vraiment... qui savent comment fonctionne l'enseignement professionnel, qui s'appelle les commissions professionnelles consultatives, qui ont été créées en 1945, qui s'appelaient à l'époque les commissions professionnelles paritaires consultatives ou paritaires professionnelles consultatives, je ne me rappelle plus. Elles sont paritaires parce que ce sont des commissions qui réunissent un tiers de représentants des employeurs, un tiers de représentants des organisations syndicales, salariés, et un tiers des représentants de l'éducation nationale qui sont en général les inspecteurs de l'éducation nationale ou les inspecteurs généraux de chaque discipline. Et ce qui est intéressant, donc ces commissions elles se réunissent à l'intérieur d'une instance qui est un bureau de la direction de l'enseignement scolaire. Donc ce n'est pas une instance qui a un grand prestige professionnel. La personne qui la dirige n'est en général qu'au mieux un administrateur civil, rarement un énarque. Hein, donc ce n'est pas un lieu de carrière, si vous voulez, à l'intérieur du ministère. Il n'empêche qu'elle a un rôle fondamental, puisque, comme l'indique ce qu'on dit, c'est j'ai repris la terminologie du ministère qui explique ce qu'elle doit faire, elle doit participer à une réflexion et à une élaboration des besoins en diplôme compte tenu de l'évolution des métiers. Ça veut dire que constamment on renouvelle les contenus de diplôme, on change le nom. En ce moment, on en parlait à l'instant avec le collègue qui est là, en ce moment c'est la gestion administration qui est au cœur du sujet. On est en train de transformer complètement cette formation, ce qui veut dire qu'on forme les profs autrement, qu'on sait parce qu'on en fait, qu'on ferme les sections, etc. Enfin, c'est très complexe. Si on faisait le quart de ça dans l'enseignement, dans les lycées généraux, on aurait des grèves immédiates et totales. Hein. Les PLP ont l'habitude de ce genre de transformation. On définit le contenu des diplômes professionnels et la place que ces diplômes de l'éducation nationale doivent tenir au sein de l'ensemble des certifications professionnelles, puisqu'il existe aujourd'hui donc un organisme qui détermine, qui agrée les certifications professionnelles. Et il y en a qui ne sont pas de l'éducation nationale, qui peuvent être délivrées par des écoles privées ou par des centres de formation, des entreprises, etc. Voilà. Donc c'est quand même un rôle fondamental. Alors c'est consultatif, certes, mais étant donné que c'est là que sont les représentants des employeurs et s'ils se déplacent les représentants des salariés, vous imaginez bien que c'est très important, c'est écouter. Alors il y a une vingtaine, aujourd'hui il n'en reste plus 20, il n'en reste plus que 14, commissions professionnelles consultatives, je ne vais pas les énumérer toutes, si vous les lisez, vous voyez que c'est les principaux grands secteurs, grandes branches professionnelles qui existent aujourd'hui. Juste une remarque tout de suite pour dire combien c'est complexe, et surtout combien ça détermine ensuite des filières dont les finalités, les modes de formation, les exigences sont très différentes. D'abord, vous remarquez que la troisième CPC, qui est en fait la première aujourd'hui, métallurgie, a déjà 4 sous-commissions, c'est la seule. Ça renvoie à une réalité qui est que derrière métallurgie CPC, il faut entendre union des industries mécaniques et métallurgiques. Derrière union des industries mécaniques et métallurgiques, vous entendez industrie automobile, construction navale, construction aéronautique, construction ferroviaire, acier, électrotechnique, etc. C'est-à-dire un énorme morceau de l'industrie française et des grandes entreprises françaises. Alstom, Areva, etc. C'est ça que vous avez derrière. Donc c'est des gens qui ont du poids. Vous imaginez bien que quand l'UEMM dit « Ah ben on aimerait bien avoir un nouveau diplôme », 2 ans après, on crée le bac professionnel. Quand l'UEMM dit « On pourrait peut-être expérimenter un bac professionnel en 3 ans. 3 mois après, on a une expérience de bac professionnel en 3 ans, initiée, je le rappelle, par Jean-Luc Mélenchon, hein, qui à l'époque ne semblait pas avoir de problème particulier, ce que lui-même lui demande de créer un bac en 3 ans. etc., etc. Hein, c'est-à-dire, vous savez, vraiment, c'est un gros morceau, et c'est pour ça qu'ils ont 4 sous-commissions, parce que, et c'est des gens qui sont présents dans la constitution de l'enseignement technique depuis la fin du 19e siècle. Je ne dis pas qu'ils sont les créateurs, parce qu'ils ne sont pas les seuls, mais ils ont toujours joué un rôle extrêmement important. Après, vous avez tous les autres secteurs, où vous voyez aussi qu'évidemment, dans bâtiments, travaux publics, matériaux de construction, vous allez avoir en même temps Eiffage, hein, et puis les petites boîtes du bâtiment qui viennent réparer la plomberie chez vous. Hein, ça représente les mêmes gens. Donc, deuxième particularité, à la fois, ces CPC, elles ont des secteurs très puissants, qui sont entendus c'est ce que je voulais dire à travers l'UMM, qui sont entendus des services de l'État, des secteurs moins connus, plus petits, mais elles représentent aussi parfois des secteurs qui sont divisés entre grandes et petites entreprises. C'est-à-dire qui les uns et les autres, qui résument à l'intérieur d'une seule CPC des besoins de formation qui sont en fait très différents. On peut lire, par exemple, la survie du CAP de cette manière-là. C'est-à-dire que les grandes entreprises annonçaient à la fin des années 80 que c'était fini, le CAP, ça ne servait à rien du tout, il n'y avait plus personne qui avait ces qualifications-là. Sauf qu'il y a plein d'entreprises qui continuaient de dire « Attention, on a besoin toujours, nous, d'ouvriers qui ont un CAP parce qu'on a besoin de savoir-faire pour le bâtiment, notamment, etc. » Donc, vous voyez, une réalité déjà qui pense les programmes à partir d'instances qui elles-mêmes sont traversées de tensions qui correspondent à celles de l'univers professionnel du marché du travail, pas au problème de l'éducation nationale. Donc je voulais montrer ça à travers ça d'abord. Alors vous voyez qu'il y a des secteurs, par exemple, coiffure, esthétique, services connexes, où on sait bien qu'ils sont très peu dans l'école, beaucoup dans l'apprentissage. Hein. Secteur sanitaire et social, médico-social, qui est présent là? Les directeurs d'hôpital, les directeurs d'EHPAD, le ministère de la Santé. Vous voyez, on a des multiplicités d'acteurs qui viennent là-dedans. Donc se joue, si vous voulez, à travers la définition des diplômes, les relations entre ces acteurs. Les tensions, les rapports de pouvoir, etc. Pour avoir travaillé une fois au tout début de ma vie professionnelle en contact étroit avec les CPC, je me souviens avoir assisté à une réunion, à un petit colloque dans lequel était là le représentant de l'UMM pour les questions de formation, qui s'appelait Dominique de Calan à l'époque, si je me souviens bien, qui tenait en public des propos totalement méprisants pour les patrons de petites entreprises. Mais comme ça, en disant que c'était des ploucs qui n'avaient pas fait d'études et que lui, qui était ingénieur de je ne sais plus quelle, de centrale, quand même, il savait penser des questions de formation. Après, c'est ces gens-là qui produisent le discours représentatif des entreprises que l'éducation nationale va absorber pour définir les contenus de diplôme. Donc déjà, là, on voit qu'on est dans quelque chose qui est loin de constituer une unité. On n'est pas devant les collègues de maths, les inspecteurs généraux de maths qui se réunissent pour produire les programmes de maths. Certes, ils ont des tensions entre eux, mais enfin, on est très loin de cette forme assez univoque que peut avoir l'éducation nationale. Donc c'est ce que font les CPC, je vous ai mis ça simplement pour vous donner une idée de ce que ça donne une fois traduit pour les profs. Ça c'est un référentiel de formation pour le bac pro vente, commerce vente. Donc vous voyez assez vite que toutes les activités professionnelles qui sont listées là, conseil et vente, suivi des ventes, fidélisation de la clientèle, développement de la relation client, animation, gestion de l'espace commercial, prospection clientèle, valorisation de l'offre commerciale, vous êtes dans un discours de professionnel, hein. C'est le discours que tiennent les gens du marketing, les directeurs de services des entreprises, etc. Et quand vous regardez dans le détail, à se réaliser la vente dans un cadre omnicanal, hein, par exemple, ça veut dire vendre à la fois sur Internet et dans une boutique, etc. Hein, vous avez tout un discours, là, qui est le discours du métier, hein, qui n'est pas du tout un discours. Alors, c'est le discours du métier, souvent, on lui donne une dimension un peu plus exigeante dans le vocabulaire, et encore, pas toujours, mais c'est un discours strictement professionnel. Assurer les opérations préalables de la vente, bon, évidemment, ça veut dire charger les rayons, c'est pas forcément très complexe, mais il n'empêche que, voilà, c'est présenté comme ça, et il faut bien savoir que les profs de l'enseignement professionnel, ça, ils l'ont sous les yeux, hein, quand ils travaillent. C'est contrairement à nos collègues de lycée et de collège qui ont souvent un rapport plus distant au programme, moins immédiat. Là, c'est les inspecteurs transmettent et ces référentiels de formation sont pris en charge de manière tout à fait sérieuse par les collègues. Je pense que vous pouvez en témoigner. Voilà. Et donc ça, vous le trouvez dans toutes les disciplines. Ces référentiels sont donc le produit du travail des commissions professionnelles consultatives retranscrit par les inspecteurs de l'enseignement professionnel qui les traduisent mais avec un lien direct, hein, ça se voit évidemment clairement. On voit bien que pratiquement toutes les opérations de vente là ici sont décomposées, hein, et forment ce qui va servir de schéma de travail aux collègues. Voilà. Alors après, vous avez la même chose, là je passe sur toutes les autres disciplines, qui ne sont pas considérées comme des activités, mais qui relèvent plus de l'enseignement dit général, donc économie, droit, mathématiques, prévention, santé, environnement, langue vivante, mais quand même la langue vivante, vous voyez tout de suite qu'elle est en référence au niveau B1, s'exprimer clairement en continu, interagir en langue étrangère, comprendre un document écrit en rédigé en langue étrangère, c'est très différent du programme d'anglais ou d'allemand du lycée. Hein. C'est pas, il n'y a pas du tout le même état d'esprit. C'est très professionnalisant, c'est très instrumentalisé pour le dire. Langue vivante, bloc d'histoire géo, etc. Je passe sur les détails, mais on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la logique programme telle qu'elle s'est, on est habitué à la voir pour les lycées ou pour les collèges. Voilà. Donc vous voyez, déjà premier point, contenu d'enseignement, organisation pédagogique, tout ça en lien très très direct avec les branches professionnelles. Donc avec des différences considérables d'une branche professionnelle à l'autre. C'est ça que j'essaye de montrer. Si je vous avais montré le référentiel du bac pro avionique, par exemple, ça n'a rien à voir avec ça, forcément. Hein, on en serait sur d'autres domaines. Et d'ailleurs, le programme de maths serait sans doute différent parce qu'il serait adapté aux besoins des ouvriers qualifiés qui construisent des avions, alors que là, c'est adapté aux besoins des futurs vendeurs des petites et grandes entreprises. Donc vous voyez, à la fois des logiques professionnelles dans lesquelles les tensions entre les différentes branches professionnelles participent à une conception plus ou moins cohérente des programmes, et ensuite des programmes qui déclinent assez clairement ces exigences professionnelles. Alors ça donne évidemment une offre de formation complexe, puisque elle suit ces différentes différences, ces différentes offres, ces exigences différentes, etc. Alors je l'ai montré à travers ce document qui ne date que de 2012, parce que je crois l'avoir trouvé, si je me souviens bien, j'aurais dû le noter, dans CPC Info, ce qui était la revue produite par les CPC, qui n'existe, je crois, plus. Hein, le dernier numéro doit dater de 2006, 8 ou 10, je ne sais plus. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus d'argent pour publier des recherches. Donc j'ai rien trouvé de récent. Ça date de 2012. L'intérêt, c'est de montrer comment chaque branche professionnelle utilise les diplômes que lui propose soit l'éducation nationale, soit l'apprentissage. Et ça permet de montrer, vous voyez, à quel point vous avez des différences de type de diplômés à l'intérieur de chaque branche. Et donc de parler d'enseignement professionnel, certes, mais vous voyez tout de suite que une fois qu'on transcrit ça dans les branches professionnelles en termes de qui utilise quel diplôme, on s'aperçoit qu'il y a des différences considérables. Alors je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail, mais vous voyez évidemment quelque chose qui saute aux yeux parce qu'en plus c'est fait en noir, c'est les branches qui continuent d'utiliser massivement des diplômés du CAP. Ce sont lesquelles ? Ben, celle-là, c'est transport, logistique, sécurité. Alors sécurité, j'en parlerai un petit peu, c'est un truc nouveau et très à la mode. Et autres services, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les logisticiens, ils sont là, ils ont des BTS ou des bacs pro, c'est les gens qui organisent toute la partie administrative, technique des transports, dans les entrepôts, dans les quais, etc. Et puis les conducteurs routiers, ils sont là. On leur demande un CAP, en général. Donc voyez bien comment la structure professionnelle d'une branche détermine le nombre de diplômes et donc le type de formation qui va être offert ou pas dans le lycée professionnel. Ici, évidemment, pas de surprise, coiffure, esthétique, services connexes, ça, ce sont des métiers qui, depuis très longtemps, sont auto-organisés, sont très peu scolarisés et sont beaucoup en apprentissage. Et chez eux, c'est le CAP qui reste le critère de recrutement premier. À l'inverse, vous voyez bien, métallurgie, l'UEM, vous voyez comment l'UEM fonctionne, elle fonctionne depuis très longtemps avec les diplômes de l'État. Et donc prioritairement le bac pro, comme vous le voyez ici, un petit peu le bac techno et un petit peu le BTS, très peu le CAP. On comprend pourquoi l'UEM a demandé la création du bac pro. Hein. Sauf que quand on crée le bac pro, on le crée pour toutes les professions, puisque c'est un lycée et que vous voyez ce que je veux dire. Donc vous êtes constamment dans des logiques de ce type où sont en tension des exigences professionnelles et la forme scolaire, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire le côté uniforme. Ici, c'est métier de la mode, industrie connexe, bon, c'est beaucoup plus le bac pro, mais un peu le CAP, parce qu'il reste des métiers très particuliers, des niches professionnelles, dans lesquelles le CAP reste une référence, parce que ce qu'il faut, c'est une habileté technique manuelle, etc., pour fabriquer des chapeaux avec des fleurs, ou des choses comme ça, mais qui sont des toutes petites niches, mais qui existent encore. Alors, je pourrais faire ça sur toutes les formations qui sont là, évidemment. Si vous avez des questions de tout à l'heure, on pourra regarder. Là, l'idée, c'est simplement de montrer que voilà, le lycée professionnel s'inscrit dans une logique de formation professionnelle initiale qui elle-même, hein, je le répète, est déterminée par des demandes de besoins de formation des structures professionnelles, des structures de branches qui sont extrêmement variées. Voilà. Je pense que je ne vais pas insister trop là-dessus. Je pense à... Alors, ça donne les choses suivantes. Dès que vous arrivez dans l'ELP, ça donne une complexité de l'offre de formation. Je regarde l'heure. Ça va. Si tu m'as dit oui, ça va, je peux... Non, parce qu'il m'a collé la pression tout à l'heure. Donc je me méfie. Non, je plaisante. Complexité de l'offre de formation. Donc, d'abord, il reste toujours deux cursus en ELP, comme vous le savez, les CAP, les bac pro. CAP 2 ans après la troisième, bac pro 3 ans. Avec des finalités très différentes, mais on vient de voir que les CAP peuvent très bien être des diplômes sur des niches très qualifiées, avec des débouchés, mais très peu de formés, ou bien, on le sait aussi, un diplôme qui a pris un côté, diplôme de consolation pour les gens qui ont eu du mal à suivre une scolarité au collège. Je ne m'étendrai que très peu, pas du tout sur le CAP, je vais me tenir surtout au bac pro. Le bac pro a une... Donc tout ça provoque une offre de formation pléthorique, 28 spécialités dans le secteur de la production en CAP pour 60 700 élèves, 13 spécialités dans le secteur du service. On distingue aujourd'hui production-service. En bac pro, 27 spécialités de production pour 223 000 élèves, 12 spécialités du service. Au total, donc, 39 spécialités différentes qui sont proposées dans les lycées professionnels. 39 spécialités, c'est beaucoup, hein. On est très nettement au-dessus des 3 bacs généraux et des 5 ou 6 bacs technologiques. Hein, et en plus, ces spécialités, ce sont celles telles qu'elles sont énumérées dans le répertoire des diplômes, des certifications. Mais chacune de ces spécialités se décline en plus, peut se décliner en plusieurs bacs. Pas toujours, mais parfois. Donc, alors là, vous avez la liste. Hein, je me suis amusé à vous mettre la liste. Des spécialités, énumérées selon le répertoire des certifications. Alors j'ai simplement voulu surligner en jaune celles qui, en réalité, regroupent la majorité, une grande partie des élèves de LP. Donc ça, c'est l'autre dimension aussi que je voulais préciser. À la fois, il y a une très grande diversité des spécialités, mais il y a aussi d'énormes inégalités. C'est mieux comme ça, Hélène ? Yeah, oui, mais celui-là, il faut dire, il n'est pas très. Mais c'est juste pour avoir quelques chiffres. Hein. Vous voyez par exemple que, certes, vous avez 223 806 élèves de bac pro dans les spécialités industrielles, mais en remontant, vous voyez qu'il y en a déjà 70 000 qui sont en électricité et électronique. Autrement dit, il y a aussi des inégalités d'effectifs qui font qu'il y a des spécialités qui accueillent un nombre important d'élèves et d'autres. Comme par exemple, je vais prendre exprès mécanique, aéronautique et spatiale parce que je vais en reparler, c'est ce qu'on appelle l'avionique, 2000 élèves. Vous avez des écarts considérables. On est à l'intérieur du bac pro métallurgie. Hein. Là, quand on prend par exemple ces trois qui sont là, mécanique auto, aéronautique, oui, et mécanique générale de précision, vous êtes à l'intérieur du bac pro métallurgie. En réalité, vous avez trois options avec des contenus assez différents et surtout des nombres d'élèves très différents. En mécanique électricité, vous avez 23 000 élèves, c'est-à-dire que vous avez vraiment des écarts importants. En CAP, vous voyez que c'est agroalimentaire qui domine dans le côté production et c'est commerce-vente et accueil-hôtellerie qui domine dans les services. Vous voyez. Et puis d'autres où vous avez... Alors il y en a où il n'y a presque plus d'élèves qui vont probablement disparaître. Côté service, bac pro, 111 000 élèves en commerce-vente, 66 000 en sanitaire et social, 73 000 spécialité pluriannuelle des services, en gros c'est les métiers du nettoyage, hein, pour aller vite. Voilà. Et j'ai surligné aussi des particularités dont je reparlerai un petit peu après, les métiers peu féminisés ou au contraire fortement féminisés. L'enseignement professionnel est aussi un lieu où les stéréotypes de genre continuent d'être très déterminants et qui divisent aussi beaucoup les formations. Pardon, excusez-moi, je ne voulais pas faire ça. Je reviens à ça. Donc, par exemple, vous voyez ici, habillement, quand même 10 000 élèves. Hein, c'est tous les métiers autour de la couture, de la préparation des vêtements, etc. 92,2% de filles. Pratiquement pas de garçons. Même chose ici. Sanitaire et social, c'est essentiellement des métiers, des bac pro qui préparent des aides-soignantes, qui vont travailler dans les EHPAD, dans les hôpitaux, etc. 91% de filles. À l'inverse, l'électricité électronique, c'est ici 1,8% de filles. Donc vous avez encore des écarts comme ça très forts, je reviendrai sur quelques détails. Donc c'est un enseignement divisé, fortement divisé et complexe en raison des spécialités professionnelles. C'est un enseignement complexe en raison du nombre de diplômes. C'est aussi un enseignement où les stéréotypes de genre sont beaucoup plus marqués que dans l'enseignement général. Avec en plus, on verra des différences importantes pour les filles en termes de débouchés. Voilà. En plus, je le disais à l'instant, je ne vais pas y rester trop longtemps, la nomenclature telle que vous venez de l'avoir ne rend pas compte du fait qu'il y a plusieurs bacs à l'intérieur de la même branche. Et par exemple, si vous cherchez un garçon qui veut s'occuper de mécanique, on ne va pas lui dire tu fais le bac pro métallurgie, tu fais le bac pro mécanique, alors option voiture, option transport routier, option motocycle. Ce qui me permet d'introduire le troisième problème dont je vais parler après. Tous les garçons veulent faire motocycle, à l'extrême rigueur voiture, surtout pas transport routier, parce que les moteurs diesel, ce n'est pas intéressant. Et évidemment, ça veut dire, tu en parlais tout à l'heure en parlant de ce qui se passait déjà dans les années 50, ils vont tous demander l'option mécanique, et puis les meilleurs vont avoir motocycle et voiture particulière, et les moins bons vont avoir transport routier. Et ça ne leur plaît pas parce qu'ils n'ont pas envie de travailler sur les moteurs diesel, c'est moins prestigieux, etc., que les motos. Et donc, ils vont être mécontents en transport routier, contents. Donc, la même discipline va en fait être divisée en termes de public par des satisfactions ou des insatisfactions d'orientation. Même chose en vente, bien que là, ce soit un peu moins problématique, vous avez deux types de bac pro-vente, l'animation en gestion d'unités commerciales et prospection et valorisation de l'offre. Alors derrière cette terminologie, vous avez le vendeur et le représentant de commerce. Hein, pour aller vite, mais bon, j'exagère un petit peu quand même. Voilà. Hein, mais c'est, là aussi, vous voyez, ça subdivise en fonction, encore une fois, des besoins présentés par les professionnels hein, dans les commissions professionnelles consultatives. Hein, c'est ça qui se décline progressivement. Voilà. Donc une offre de formation complexe. Donc pour résumer cette première partie de cet exposé, je dirais voilà qu'il y a une tension constante dans l'enseignement professionnel entre la forme scolaire, qui impose ses logiques, hein, temporalité des formations, statut des élèves qui ne sont pas des apprentis, qui ne sont pas payés, qui font des stages, mais uniquement des stages de formation sur des périodes correspondant à la scolarité, statut et formation des enseignants qui sont fonctionnaires. Donc quand vous décidez de changer ou de fermer une section parce qu'elle ne correspond plus à rien sur la demande de professionnels du marché de l'emploi, vous vous retrouvez avec des fonctionnaires qu'il faut recycler. Vous ne pouvez pas leur dire au revoir, merci, vous nous avez rendu service, mais c'est fini. Donc, problème, c'est compliqué. Vous avez, tu l'as très bien dit tout à l'heure, vous avez des sections à remplir aussi, hein, par moment. Contrôle des budgets. Hein, les budgets sont les budgets sur la temporalité scolaire, janvier à décembre, ce qui ne simplifie pas du tout la gestion d'un lycée professionnel qui achète du matériel tous les ans pour l'année scolaire complète. Hein. Donc, ça veut dire que les agents comptables ont l'habitude de se débrouiller pour que les profs rendent leurs besoins sur une année scolaire et les reporter sur des budgets qui sont sur l'année civile. C'est déjà un peu compliqué dans l'enseignement général, mais alors là, dans l'enseignement professionnel, ça aboutit à des manœuvres compliquées pour que tout le monde ait bien sa quantité de fils électriques, de plâtre à construire au mois de septembre et non pas au mois de janvier, hein, parce que sinon ça serait un peu difficile. Voilà, donc une logique scolaire qui est là, mais des exigences professionnelles, évolution des qualifications, de référence. Il faut bien suivre la réalité. Il y a des métiers qui disparaissent ou qui diminuent, d'autres qui apparaissent. Donc, si on veut avoir des diplômes correspondants, et je n'ai pas eu le temps de le dire, mais j'aurais dû le dire sur les CPC tout à l'heure, mais le diplôme, en France en particulier, a pour chaque champ professionnel une dimension symbolique forte. Avoir son CAP, avoir son bac pro, avoir son BTS, c'est exister professionnellement. Pas que dans l'éducation nationale, dans les chambres des métiers, on en a parlé tout à l'heure, dans l'industrie et le commerce, et pouvoir afficher les métiers quand on a besoin de recruter. Faites un bac pro mécanique générale, on en a besoin, etc. On ne dit pas on va recruter des mécaniciens généraux, on dit il faut faire des bac pro. Donc le diplôme a pris en France de ce point de vue-là, dans la mesure en plus où il est présent dans presque toutes les conventions collectives pour définir les qualifications et les rémunérations, même si ça a un peu reculé depuis quelques années, mais enfin ça reste là, le diplôme. Donc chaque branche professionnelle veut son diplôme, d'une manière ou d'une autre. Donc elle intervient là-dedans. Bon, nature des qualifications disparates. Offre de stage, en revanche, très inégale. Hein, vous n'avez pas les mêmes offres de stage dans le Nord-Pas-de-Calais, à Marseille, en Auvergne et à Toulouse. forcément, le tissu industriel n'est pas le même, les entreprises ne sont pas les mêmes, etc. Alors, si vous êtes dans la vente, il y a des supermarchés partout, donc là, vous aurez des stages. Si vous êtes dans la mécanique, si vous êtes dans la plasturgie, si vous êtes dans des métiers, il y a des secteurs où il n'y en a pas, hein, donc c'est complexe. Et évidemment, concurrence avec l'apprentissage, dans certains cas, notamment pour le versement de la taxe d'apprentissage. On n'en a pas parlé, mais en 1925, on crée une taxe d'apprentissage que chaque entreprise est censée verser. Alors, soit cette entreprise fait la preuve qu'elle fait elle-même de la formation ou qu'elle en finance, auquel cas elle est exemptée de la taxe d'apprentissage, soit elle accepte de payer un impôt, en fait. Et cet impôt, elle peut choisir de le verser à qui elle veut. Soit elle le verse à un organisme professionnel centralisé qui redistribue, soit elle le verse directement à un établissement scolaire. Un bon proviseur de LP, c'est aller à la chasse à la taxe d'apprentissage. Je vois que monsieur connaît la technique. Donc, par exemple, vous avez un bac pro logistique et vous êtes à Lyon, à côté de la gare de Lyon-Part-Dieu. Vous vous précipitez chez le chef de gare, qui est un ingénieur, je précise, centralien, et vous lui demandez, le gars dit oui, d'accord, ok, et pour lui, vous versez 100 000 euros, c'est pas grand-chose, ou 25 000 euros. Pour vous, c'est tout un équipement nouveau qui arrive. Donc il y a des enjeux autour de ça. Et les CFA concurrencent, parce que souvent les entreprises préfèrent donner aux CFA, etc. Vous voyez, donc là, vous avez tout un travail souterrain, mais bien connu de l'enseignement professionnel. Donc tout ça, ça pèse. Et encore une fois, d'un côté la forme scolaire, de l'autre exigeant du milieu professionnel. Donc on aboutit à une hiérarchisation des formations qui dépend de l'offre et de la demande, en fait, puisque en fin de troisième, vous n'êtes plus, pour la plupart des élèves, vous n'êtes plus dans l'obligation scolaire, même s'il y a de moins en moins de redoublants, donc c'est 16 ans, beaucoup ont 15 ans, mais enfin, on est à la fin. Et donc, ceux qui vont accepter... ou demander une orientation, j'ai mis accepte ou demande, parce qu'on est d'accord que tout le monde ne va pas au lycée professionnel spontanément et dans l'enthousiasme, mais il y en a un certain nombre qui le demandent, évidemment, ça va s'inscrire dans une logique d'offre et de demande. Qu'est-ce qui détermine la demande ? Ben, d'une part, pour les jeunes, beaucoup les représentations subjectives qui se font du métier. Alors j'ai mis dans les représentations juvéniles populaires, parce que je sais par ailleurs que c'est plus souvent les jeunes de milieux populaires qui vont en LP, puisqu'il y a un lien avec la réussite. Bon, je ne vous refais pas la sociologie de l'éducation sur le sujet, donc c'est plutôt eux. Et qu'est-ce qui va les attirer ? Bah, par exemple, il y a un bac en ce moment qui a le vent en poupe, c'est le métier de la sécurité. Il a été créé il y a très peu de temps, moins de 10 ans, à la demande des pompiers de Paris, les pompiers qui voulaient avoir... Alors voyez, les pompiers veulent un diplôme, eux aussi, un truc qui va permettre de canaliser en avance des gens. Les jeunes de milieux populaires sont souvent assez fascinés par le métier de pompier, donc ça donne le bac pro sécurité qui fait pompier, mais aussi vigile, et éventuellement prépare au concours de police. Ça a un énorme succès en ce moment, il y a un taux de pression qui est de l'ordre de 4,5, c'est-à-dire il y a 4 à 5 candidats pour une place. Ce qui veut dire que les élèves qui arrivent en bac pro sécurité sont plutôt de bons élèves. Parmi ceux qui ont demandé, ils ont un bon dossier. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'on regarde ? Et là, on retombe sur la logique scolaire. On regarde, ils sont en troisième. Si vous voulez regarder, on ne leur interroge pas pour savoir s'ils ont vraiment le cœur pompier. Donc, eh ben, on regarde s'ils ont de bonnes notes. Et ça leur dit, ben, toi, tu as demandé pompier, tu as de bonnes notes, tu as pompier. Bon. Ce qui est, alors, vous trouvez la même chose, cuisine, mécanique auto, etc. Donc, d'abord, l'image de la profession chez les jeunes. Évidemment, les rémunérations attendues, plus ou moins... objectivement connu. La plupart des jeunes savent quand même que si vous acceptez de travailler dans le bâtiment, il y a des primes liées au mauvais temps, au travail supplémentaire, etc. Mais enfin, ils ne sont pas forcément très, 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 très informés. Et l'espoir d'entrepreneuriat, ça, j'insiste là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve constamment, on l'avait, nous, dans notre enquête, hein, beaucoup de jeunes qui disent « je veux monter ma boîte ». L'espoir de... Alors, ça peut être un leurre, hein, la question n'est pas là, mais ça fait partie des motivations. Donc, ils peuvent choisir aussi des secteurs où ils ont le sentiment que ça sera plus facile que dans d'autres de monter leur entreprise. Et puis, bien sûr, perception des conditions de travail. Et ça, c'est un des grands problèmes du recrutement aujourd'hui. C'est que les jeunes sont fascinés plutôt par les métiers du tertiaire, hein, plutôt la blouse blanche que la blouse bleue, enfin plutôt l'absence de blouse plutôt que la blouse. Et donc il y a beaucoup de métiers qui sont en déficit de recrutement, mais qui ont du mal à séduire, et notamment les métiers du bâtiment, hein, comme c'est assez connu. De l'autre côté, l'offre, c'est quoi ? Ben, on vient de le voir, c'est l'anticipation des besoins du marché du travail. Autant que ça marche, à travers les CPC, plus d'autres lieux d'intervention. Le CEREC, notamment, produit des données qui peuvent aussi diriger les décisions de l'éducation nationale. Donc ça, c'est un premier critère. Donc on va essayer de remplir les sections dont on pense qu'elles ont une chance d'offrir une insertion auxquelles répondent à des demandes. Et puis de l'autre côté, les contraintes systémiques, ce que j'ai appelé les contraintes systémiques, il faut aussi réguler les flux. C'est-à-dire remplir les sections mal remplies et ne pas trop remplir les sections où il y a beaucoup de demandes. Ça, c'est beaucoup moins logique en termes de formation professionnelle, ça l'est en termes de logique interne au système éducatif. Et puis, bien sûr, anticiper les poursuites d'études. Puisqu'aujourd'hui, c'est un bac, le bac étant le premier diplôme universitaire, il autorise les poursuites d'études. Donc là aussi, comment on gère les flux qui vont arriver au baccalauréat, dans quelle spécialité, etc. Là, actuellement, là, je l'ai dit tout à l'heure, la remise en cause de la filière gestion-administration est typiquement liée au fait que les élèves qui arrivent dans ces bacs-là, on sait qu'ils n'auront pas le niveau suffisant dans ce qu'on exige aujourd'hui pour aller faire de l'assistant de direction ou comptable. Voilà. Donc vous voyez, là encore, des formations dont la hiérarchisation tient autant aux structures du système qu'à d'autres critères liés au niveau, des choses comme ça. Vous êtes dans une logique qui crée des hiérarchisations par le fait qu'elle répond plus ou moins bien à la fois aux exigences scolaires et aux exigences professionnelles. Voilà, donc conséquence, on a, c'est ce que je voulais dire pour finir ce sujet, ça va, là il me reste 10 minutes, c'est bon C'est bon, ça va ? 5 ?
5,
d'accord. Donc on aboutit donc à des écarts considérables. Toutes ces logiques, si vous voulez, de tension entre différents types d'exigences aboutissent à des écarts considérables. Donc taux de réussite au bac pro, 81% pour 87% dans le bac général, mais en réalité, 92% en avionique, 74% en génie climatique. Pourquoi ? Parce que avionique égale avion, construction d'avion égale attractivité. 2000 places, ils doivent l'être sur un taux de pression de 7 à peu près pour 1, enfin des choses comme ça. Donc ils ont de très bons élèves, donc ils ont une bonne réussite au bac et une bonne insertion, je le dirai rapidement après. Génie climatique, curieusement, il y a du travail. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est soit les plombiers, soit les gens qui font de la climatisation. C'est des secteurs qui embauchent, mais peu attirant. Pourquoi ? Je ne sais pas très bien. Ça ne marche pas. Sécurité, 93% de réussite au bac. Spécialité plurilingue de service, c'est-à-dire les métiers du nettoyage, 76%, peu attractif. Les gens viennent là parce qu'ils n'ont pas pu aller ailleurs. Donc, ils ne sont pas à très bon niveau. Ils ne sont pas motivés. Donc, ils sont peu nombreux à avoir le bac. Voilà. Taux de réussite au BTS des bacheliers professionnels, c'est quand même important pour mesurer la réalité des trajectoires. En production, 67,6% des élèves, des bacheliers pro qui rentrent dans un BTS selon l'ADEP et selon une des enquêtes de l'ADEP, parce qu'il y a des petits décalages dans les analyses, mais enfin je pense que celle-là est à peu près fiable, 68% réussissent le BTS de ceux qui ont un bac pro production et qui rentrent en BTS. C'est seulement 60% de ceux qui ont un bac pro service. Ce qui veut dire par ailleurs que comme il y a plus de filles en service, les filles sont plus pénalisées, etc. Vous voyez, ça participe à la division des différentes trajectoires possibles. Bon, sur les filles, je vais aller très très vite puisque je l'ai déjà dit. 42% de filles en LP, 12% en production, 64% en service. Et essentiellement dans des métiers très genrés hein, depuis toujours, avec quand même une petite particularité, 20% de filles en génie civil, construction bois, entendez par là menuiserie, hein, pour aller vite, et finition, entendez par là peinture, revêtement. Alors, finition, pourquoi ? D'après les profs, c'est à cause de l'aspiration à faire de la décoration intérieure pour les filles de milieux populaires, et cette aspiration viendrait, toujours selon les profs interrogés, du succès des émissions que vous connaissez peut-être, animées notamment par la célèbre Valérie Damidou, ou Damidou, je sais plus. Il paraît que ça a créé une passion pour l'enseignement, pour la finition chez les jeunes filles, ce qui veut dire qu'elles acceptent par ailleurs de travailler sur du ravalement d'immeubles, hein, puisque la finition, c'est pas que la décoration intérieure. Mais pour des milieux populaires, c'est accessible, tandis que rentrer dans une école d'art appliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je n'ai pas vérifié, mais enfin, si, les deux filles que j'avais interrogées, elles confirmaient hein, que c'était ça qu'elles voulaient faire. Bon, voilà. Et les patrons étaient très contents parce que les filles sont un, soigneuses, deux, elles viennent à l'heure au travail, trois, elles ne contestent pas, quatre, elles ont de bonnes relations avec les clients, contrairement aux garçons. Voilà, ça, j'ai entendu ça pendant. Donc, les stéréotypes de genre fonctionnent bien hein, quand même, puisque ça permet la réussite de ces jeunes femmes. Voilà, donc en gros, pour aller vite, des parcours différenciés hiérarchisés, 48% ont poursuivi après le bac, 33% en BTS, on vient de voir les taux de réussite, donc ça donne quelque chose comme 20-21%, là c'est à la louche, heureusement Christophe Michaud n'est pas là, donc c'est mon surveillant en matière de statistiques, c'est quand même approximatif, mais en gros ça doit faire autour de 20% d'élèves aujourd'hui qui rentrent en seconde pro qui réussiront un BTS. 20% c'est pas négligeable. Donc là on est bien sur la partie qui réussit plutôt, à qui le bac pro réussit. Des insertions évidemment inégales, j'ai pas le temps de dire le tableau en détail, mais enfin en gros, plus vous montez dans les diplômes, plus l'insertion est bonne à la sortie. Néanmoins, on observe, c'était ça que je voulais montrer, on observe assez systématiquement des différences au niveau du bac pro, c'est ici, entre production et service, il y a presque toujours une petite supériorité aux productions. Au bac pro production par rapport au bac pro service, c'est-à-dire aux métiers industriels, du bâtiment, etc., mais qui sont souvent ceux qui sont moins attractifs par ailleurs pour les élèves. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Donc voilà, j'ai tenté ça, c'est ma conclusion, ça va ? Je pense qu'aujourd'hui, si on rapporte ce que je viens de dire à ce qui se passe réellement en termes de trajectoire d'élèves dans les LP, vous avez des décalages énormes, c'est-à-dire le LP peut être aussi bien relatif au lieu de réussite. J'ai repris la formule d'un bouquin que j'aime beaucoup de Romain Delesse qui s'appelle « Quand on n'a que le diplôme » qui est paru en 2018, qui est une enquête qualitative qu'il a fait dans Pôle emploi, dans les bureaux de Pôle emploi qui aident les jeunes à trouver du travail. Et donc il a interrogé une quarantaine, je crois, de jeunes à peu près. C'est ça, hein, c'est 40, hein, je crois, un peu plus, une quarantaine. Et il a fait une typologie et notamment il dit les bons BTS, les BTS qui viennent là, qui ont du boulot très vite, qui savent se présenter, qui ont une valeur professionnelle, vivent leur succès, dont certains sont des bacheliers professionnels, vivent leur succès, dit-il, comme la revanche des petits diplômes. C'est-à-dire, on nous a viré de l'enseignement général, pour simplifier, on nous a viré de l'enseignement général en troisième, mais regardez-nous ce qu'on fait, et là, regardez-lui, là, il a un master de psychologie, il ne trouve pas de travail. Et donc, il y a une espèce de côté assez amusant là-dedans. Mais vrai, hein, vous avez ce qui est la réussite des... Alors, d'autant plus dans les secteurs à faible pression. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés assez facilement, mais c'est des secteurs qui embauchent. Et comme ils ont eu une bonne mention au bac, et que dans le BTS, on leur demande du savoir-faire, ils réussissent. Deuxième cas, évidemment, plus rare. Il appelle ça l'insertion prévisible, Romain Delesse, donc j'ai repris son terme. Les gens qui accèdent au BTS, mais là, cette fois, dans des filières très sélectives, j'ai cité l'avionique, où là, ils ont un projet de carrière, carrément. Mais évidemment, ils sont très peu nombreux. Donc autant les premiers, ils sont dans les 20% qu'on vient de voir qui réussissent le BTS, les autres sont problèmes, mais ils existent, on ne peut pas non plus nier leur existence. Après, vous avez, je dirais, la majorité, mais pas que, puisqu'il y en a quand même un peu plus de 20% qui réussissent en BTS, qui vont avoir une insertion assez probable, mais que j'ai qualifié d'aléatoire, parce qu'ils sont dans des formations à taux de pression moyen, ils n'ont pas eu trop de mal à y rentrer, ils ne sont pas forcément très motivés sur ces formations, et ils n'auront pas forcément un emploi dans le domaine où ils se sont formés. Et souvent, ce sont des gens qui vont passer par, pas la précarité, mais l'intérim, des CDD, qui vont revenir en formation, etc. Parce qu'ils ne sont pas dans une logique, on va dire, qui correspond exactement à un projet professionnel. Et puis, évidemment, vous avez au bout ceux qui vont être plutôt dans les filières à faible taux de pression, voire à taux de pression négatif. Ça existe, hein. Moins de candidats que de places dans la formation, qui ne veulent pas y aller, qui sont mécontents, qui décrochent, qui s'en vont, etc. Et qui vont souvent se trouver dans des situations ensuite d'insertion difficile et de ce qu'on appelle parfois le cheminement. Et donc évidemment, les ressources des familles pour établir des stratégies de formation, là, elles reviennent. La capacité de l'institution à délivrer des conseils informés. Les élèves de LP dépendent beaucoup de ce que leur disent les profs. Souvent. Et puis enfin, l'offre locale de formation, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais c'est évident que rentrer dans l'enseignement professionnel en Vendée, on n'a pas la même offre de formation que si on habite Nantes ou Paris. Je vous remercie. Voilà.
Merci Vincent pour cette présentation très synthétique et qui apporte beaucoup d'éléments. Alors, voilà, des questions, Noémie ?